Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio RDL. Vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar. Bonjour Christine.
Bonjour Francis.
Et bonjour Francis et bonjour Peggy à la régie, tous les deux.
Oui, quelle chance d'avoir les deux régisseurs pour nous ce matin.
C'est super. Et Christine, ce matin, ensemble, nous parlons du prochain spectacle. Je crois que c'est à peu près le prochain spectacle.
Oui.
Qui s'intitule « Croire aux fauves ». Il s'agit d'un travail fait à partir d'un roman ou d'un texte de Nastassia Martin. Un travail de Laure Werkman qui a adapté ce texte et qui l'a mis en scène. Alors Christine, tu avais déjà fait une émission antérieure que vous pouvez d'ailleurs écouter sur scène
d'automne
en Alsace, et précisément l'artiste centrale qui est dans ces scènes d'automne en Alsace, qui est Laure Werkman, et il s'agit là d'une des propositions qu'elle a faites sur les quatre qui se font dans le Haut-Rhin, et plus que le Haut-Rhin d'ailleurs.
Oui, puisque en fait ce festival scène d'automne en Alsace est centré cette année sur une tétralogie, c'est-à-dire quatre œuvres mises en scène et parfois jouées par le même artiste, par la même artiste, qui est Laure Werkman. Alors, en fait, il s'agit de spectacles qui tournent autour de figures féminines qui, à un moment donné de leur vie, ont dû affronter une épreuve, ont dû traverser une difficulté, un obstacle, et cette traversée leur a permis en quelque sorte de se réparer, de renaître et d'arriver augmenter en quelque sorte après toutes ces épreuves. Alors il y a bien sûr Croire aux fauves dont nous allons parler ce matin et qui va être joué à la Comédie de Colmar, mais il y a aussi, et ça se jouera demain et après-demain à la Filature, L'amour après, qui va parler de Marceline Loridan-Ivens, qui est une survivante des camps de concentration et qui va avoir une vie assez incroyable aussi, et qui même à la fin de sa vie, à plus de 80 ans, va encore témoigner de cette force, de cette vitalité qu'elle aura eue pour survivre. Et il y a aussi un spectacle qui s'appelle Renaître et qui se jouera à Ilzac sur un court de tennis, parce que c'est l'histoire de Marion Bartoli, et donc la tenniswoman. Et puis un spectacle que Laure Werkman avait déjà créé l'an dernier, qu'on avait pu voir à Ilzac, qui est J'aime, d'après un roman de Nan Beauregard, et qui est le récit d'une femme qui dit comment elle aime celui qu'elle aime, ce qu'elle aime en lui, et qui est un texte absolument prodigieux. Et puis ce spectacle que vous verrez donc à Colmar, qui est Croire aux fauves, le mardi 14 octobre à 19h et le mercredi 15 octobre à 20h. Et donc parmi les spectacles que Laure Werkman joue, il y a le spectacle J'aime et puis Croire aux fauves, les deux autres éléments de la tétralogie étant pris en charge par deux autres comédiennes, mais c'est toujours Laure Werkman qui met en scène.
Oui, pour revenir, alors tout cela, tu le dis très bien, puisque dans ta petite émission là, que tu avais faite, pour revenir sur ces femmes qui changent, qui se transforme, parce qu'il s'agit de métamorphose, oui. Il s'agit de métamorphose, et ça c'est vraiment intéressant, c'est que un événement a lieu, alors des événements terribles d'ailleurs, et ces femmes ne meurent pas, parce que je crois, tu le disais, Laure Werkman avait été frappée par le fait que très souvent les femmes meurent.
Oui, c'est-à-dire les grands rôles de femmes
sont des femmes sacrifiées,
oui.
et que là on est plus du tout dans le sacrifice, et c'est ça qui est intéressant, et nous allons en parler précisément pour Croire aux fauves, c'est-à-dire il y a au fond un moment terrible, sanguinolent même, terriblement sanguinolent, et les femmes s'en sortent, et elles s'en sortent transformées. Et c'est cette transformation que Laure Werkman a voulu mettre en scène à partir du livre de Nastassia
Martin,
parce que il s'agit précisément dans ce livre de réparation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après avoir été blessé si profondément, comment on se répare et comment cette réparation, l'humain d'aller dans le sens d'une vengeance ou d'une volonté d'agression.
Ou même simplement de dépression, de laisser aller. Puisque bon, ce qu'il faut dire effectivement, c'est que ce n'est pas un roman, Croire aux fauves, c'est vraiment le récit fait par Nastassia Martin, cette formidable anthropologue, parce que c'est son métier, qui, à l'occasion de son travail chez les Évennes, dans le Kamtchatka, donc vraiment le Grand Nord, va rencontrer un fauve, un ours, qui va la défigurer et qui va la transformer.
Avant, peut-être juste un mot avant de lire ce qui s'est passé, parce que c'est l'événement lui-même, mais juste les Évennes sont donc une population, je dirais, autochtone qui se trouve au Kamtchatka. Nastassia Martin, qui est anthropologue, à la suite d'autres anthropologues qui ont travaillé de cette façon-là, comme par exemple celui qui est le plus connu, qui est Philippe Descola, pour les Achuars en Amérique du Sud, eh bien, Nastassia Martin avait déjà travaillé en Alaska, où elle avait déjà travaillé aussi sur les âmes de ces populations qui ont un fonctionnement totalement différent du fameux naturalisme qui est le nôtre, c'est-à-dire de ceux qui font la distinction entre nature et culture, comme l'a montré si, je dirais, si longuement et comme il le redit sans cesse Philippe Descola, à savoir un lien différent avec les autres vivants.
Oui, et bon, pour Philippe Descola, il y a effectivement plusieurs façons d'être au monde et de plusieurs vision du monde, et ces peuples comme les Évennes ou comme ceux que Nastassia Martin avait rencontrés en Alaska sont des peuples animistes, c'est-à-dire qu'en fait ils pensent que l'âme d'une certaine façon est commune et que les formes changent et qu'on peut donc être en contact avec le vivant, et c'est particulièrement important. Alors moi je vous recommande vraiment la lecture de Croire aux fauves bien sûr, mais aussi la lecture notamment des rêves à l'Est, donc quand elle relate plutôt son travail anthropologique avec les Évennes, parce que justement la relation avec les autres vivants, avec les animaux, sont profondément ancrées dans les rêves. Et on va voir que dans l'histoire de l'anthropologue et dans l'histoire de ce qui lui est arrivé, c'est fondamental.
Voilà, on en reparlera, mais peut-être allons d'abord au texte peut-être central, c'est-à-dire lorsqu'elle raconte cet événement, la rencontre entre, je dirais, l'humain et l'animal, qui est une rencontre quand même sanglante. Donc,
oui,
c'est
et
ça
en même
qui
temps,
est étonnant.
Et en même temps, ce qui est assez intéressant dans l'écriture de Nastassia Martin, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne commence pas par raconter cette rencontre avec le fauve, rencontre marquante. Elle parle plutôt de ce qui lui arrive après, et c'est seulement au fur et à mesure, et assez loin déjà dans le texte, qu'elle va raconter ce qui s'est exactement passé et que nous allons vous lire avec Francis.
Mais comme on le sait, je crois qu'on ne spoile rien du tout. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient à la fin, c'est-à-dire il y a déjà la réparation dans la tête. Et voilà le texte. « Je marche sur ce plateau d'altitude aride sur lequel je n'ai a priori rien à faire. Je sors du glacier, je descends du volcan. Derrière moi, la fumée crée un halo de nuages. Je m'imagine seul, pour toutes les raisons personnelles, historiques et sociales que l'on sait, mais pourtant, je ne le suis pas. Un ours, tout aussi dépoussolé que moi, se promène lui aussi sur ces hauteurs où il n'a rien à faire non plus. Il est presque comme un alpiniste, alors, c'est vrai, que fait-il là, sur cette terre dégarnie, sans baies ni poissons, alors qu'il pourrait être tranquillement en forêt, en train de pêcher. Nous tombons l'un sur l'autre. Si le kairos doit avoir une essence, c'est celle-ci. Une aspérité de terrain nous cache l'un à l'autre, la brume monte, le vent ne souffle pas dans le bon sens. Quand je l'aperçois...
Il est déjà devant moi. Il est aussi surpris que moi. Nous sommes à 2 mètres l'un de l'autre. Il n'y a pas d'échappatoire possible, ni pour lui, ni pour moi. Tu m'as dit, si tu rencontres un ours, dis-lui, je ne te touche pas, tu ne me touches pas non plus. Oui, certainement, mais pas là. Il me montre les dents, Sans doute a-t-il peur, moi aussi j'ai peur. Mais faute de pouvoir fuir, je l'imite, je lui montre les dents. Tout va très vite ensuite, nous entrons en collision, il me fait basculer, j'ai les mains dans ses poils, il me mord le visage, puis la tête. Je sens mes os qui craquent, je me dis je meurs, mais je ne meurs pas. Je suis pleinement consciente. Il lâche prise et m'attrape la jambe. J'en profite pour dégager mon piolet qui est resté à ma bretelle depuis la descente du glacier juste derrière. Je le frappe avec, je ne sais pas où, car j'ai les yeux fermés. Je ne suis plus que sensation. Il lâche, j'ouvre les yeux, je les vois s'enfuir au loin en courant, en boitant. Je vois le sang sur mon arme de fortune. Et moi, je reste là, hallucinée et sanguinolente, à me demander si je vais vivre. Mais je vis. Je suis plus lucide que jamais. Mon cerveau tourne à 1000 à l'heure. Je me dis, si je m'en sors, ce sera une autre vie.
Voilà le texte un petit peu, disons, de l'événement qui est au départ de cette autre vie, puisque précisément ce qui se passe là va être à l'origine de la transformation. Alors bien sûr, il y a d'abord le fait qu'elle s'en sort. L'ours aussi, d'ailleurs, les deux s'en sortent de cette rencontre. Elle attendra un moment, elle sera, on va s'occuper d'elle, elle sera amenée en hélicoptère dans un hôpital, on commencera à donner les premiers secours, et puis suit un long moment, une année, deux années, trois années même, de réparation.
Oui, et en même temps, ce qu'on voit bien aussi dans le texte que nous venons de lire, c'est que cette rencontre avec l'ours est un véritable événement parce que c'est quelque chose qui arrive et qui n'aurait pas dû advenir. Parce que ce qu'elle raconte, c'est que l'ours aussi, lui, n'avait rien à faire là. C'est ce qu'elle dit dans le début de son texte. Et que donc cette rencontre, qui a l'air d'être totalement fortuite et totalement une rencontre de hasard, dans ce processus très long de réparation, elle va petit à petit se rendre compte que ben quelque chose l'a amenée à cette rencontre avec l'ours. Et elle a survécu et elle est devenue, comme disent les Évènes, moitié femme, moitié ours, Mitka. Mais, ce qui est tout à fait étonnant, dans le récit, elle raconte aussi que quand elle est arrivée chez les Évènes, puisqu'ils sont animistes et qu'ils ont un rapport avec les autres vivants, avec les animaux qui est très fort, ils lui avaient donné un surnom qui déjà la rattachait au monde de l'ours, puisqu'elle avait un surnom qui signifiait l'ours. Et donc dans cette rencontre et dans cette survivance aussi, et dans la longue réparation qu'elle va mener et qui est importante aussi, elle va être amenée à réfléchir sur ce qui l'a conduit à cette rencontre.
Mais peut-être juste un mot sur le mot kairos qu'elle indique dans le texte, qui pour les stoïciens en tout cas est le moment décisif, le moment d'une décision, mais qui était inattendu. Quelque chose se passe qui est souvent d'ailleurs positif. Elle le dit positif, or ce que nous venons de lire n'est guère positif, c'est-à-dire pourrait être absolument terrible.
Parce que l'ours, c'était terrible, la défiguration était terrible.
Parce que l'ours vient de lui arracher un morceau de la mâchoire, et qu'il va falloir recoudre. D'ailleurs,
oui, et puis elle va être confrontée à différentes sortes de médecines, elle va devenir elle-même un territoire d'exploration, elle qui, en tant qu'anthropologue, explore des territoires, elle va devenir pour la médecine, alors d'abord la médecine post-soviétique et ensuite la médecine en France, un territoire d'enjeu, puisqu'elle va avoir une plaque qui a été faite par les soviétiques, et puis ensuite les médecins français, les chirurgiens vont vouloir effectivement changer les choses, elle va attraper une maladie nosocomiale, enfin elle va devenir pour la médecine un terrain d'exploration, incroyable aussi.
Oui, ce qui est incroyable, c'est que c'est un kairos, mais un kairos aussi qui est en relation avec le temps, puisque ça se passe en 2015, et elle revient. D'abord, elle est effectivement traitée pour cet arrachage de mâchoire dans un hôpital soviétique, puis ensuite elle revient en France. Et quand elle revient en France, c'est un autre événement qui vient d'avoir lieu le 13 novembre 2015, c'est-à-dire l'attaque du Bataclan, et qui renvoie d'une certaine façon ce qui s'était déjà passé en janvier et à Lançon qui a eu aussi sa mâchoire défoncée par les terroristes, et Lançon qui a écrit le Lambeau, et on est assez proche de quelque chose qui s'est passé là, mais Nastassia Martin précisément le prend tout à fait différemment
après un long processus.
Après un long processus, puisque là ils sont assez proches, c'est-à-dire les deux vivent quelque chose de terrible, c'est-à-dire la reco on refait une partie du visage.
Oui, donc
le Lambeau raconte cette réfection du visage, et elle raconte sa réfection du visage comme une réparation, mais qui est pas simplement la réparation,
mais comme une métamorphose,
voilà,
comme
une
transformation,
une rencontre bénéfique.
Oui, c'est elle fait même le lien entre son nouveau visage et, puisqu'on parlait d'animisme et de Philippe Descola qui a été son professeur, c'est qu'elle elle va avoir un masque qui est quasiment le masque chamanique. Son visage transformé devient presque une sorte de masque qui la rattache encore plus à son lien avec l'ours. Et en fait, ce qui est étonnant aussi dans le rapprochement avec les attentats du Bataclan, et là aussi pour montrer combien parfois quelque chose qui est terrible, d'une certaine façon, peut se transformer. Parce que pour elle, normalement, elle aurait dû revenir dans les hôpitaux. Sa mère, d'ailleurs, n'a pas voulu qu'elle retourne se faire charcuter encore et qu'elle reste plutôt à la maison. Et le fait qu'il y ait eu les attentats du Bataclan, ça a fait que les chirurgiens étaient occupés.
Oui,
elle
retourne dans la montagne,
voilà,
parce que c'est une femme de la montagne.
Elle retourne dans la montagne d'où elle est originaire chez ses parents. Oui. Mais c'est aussi le moment où elle va échapper d'une certaine façon à la médecine et à la chirurgie occidentale, et c'est ce qui lui permettra ensuite, parce qu'à un moment donné elle étouffera même dans la proximité de ses parents, elle va retourner sur le territoire des Évennes et retrouver sa famille d'adoption en quelque sorte, ce qui est absolument aussi incroyable et qui va avoir un sens aussi très fort dans le processus de réparation.
Alors nous verrons comment cela se met au théâtre dans un instant, mais nous écouterons un tout petit peu de musique. C'est toi qui as choisi, Christine.
Oui, alors j'ai choisi, pour rendre hommage peut-être à l'ours, un extrait de la musique du film L'ours, qui d'ailleurs reprend, c'est la musique de Philippe Sard, mais elle reprend un morceau de Haydn.
Thank you.
Vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar. Ce matin, nous parlons de Croire aux fauves, un spectacle de Laure Werkman à partir d'un texte de Nastassia Martin, un texte de rencontre entre une anthropologue et un ours. Et d'ailleurs, vous venez d'entendre la musique du film de Hanou qui s'appelle L'ours, n'est-ce pas, Christine?
Oui, et ce Croire aux fauves, dont je vous recommande la lecture du récit qui est paru chez Folio et que vous trouverez très facilement, va se jouer à la Comédie de Colmar le mardi 14 octobre à 19h et le mercredi 15 octobre à 20h. Alors on peut se demander comment Laure Werkman a adapté le récit à la scène. On peut en savoir un petit peu plus.
C'est aussi un théâtre, puisque en dehors de l'événement qui lui-même est peut-être cinématographique d'une certaine façon, parce qu'on peut montrer ça au cinéma, mais il est beaucoup plus difficile de montrer la transformation de cette femme qui vient d'être agressée, qui va pardonner à l'ours, qui va devenir moitié ours d'ailleurs, c'est-à-dire l'ours va rentrer en elle et ils vont faire les mêmes rêves d'une certaine façon, elle va rêver l'ours et peut-être que l'ours va rêver d'elle. Comment présenter ça, comment montrer ça? Et ça peut-être c'est au-delà de l'image et il faut donc le montrer par les mots. Parce que voilà, l'ours ne parle peut-être pas notre langue, mais nous étant des parlettres, c'est au travers du langage que nous racontons la transformation. Et elle va donc raconter cette transformation dans le livre, parce que le livre, cette rencontre, comme nous l'avons dit avec Christine, se fait à la fin. Parce que entre temps, il y a tous les éléments de la transformation qui, dans le livre, prennent quelque chose comme la suite des saisons. Ça commence en automne, qui est le moment où elle vient d'être blessée et elle est dans l'hôpital en Russie.
Oui.
Et puis ensuite, elle vient en France et c'est l'hiver. Elle va ensuite, je dirais...
connaître le printemps.
Connaître un printemps où elle retourne chez les Évennes. Et enfin, elle écrit le livre. Et c'est le livre précisément, c'est l'ensemble du texte qui est donné et qui est mis en scène par Laure Werkman, qui raconte au fond la métamorphose et la réparation.
Oui, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est vécu par Nastassia Martin comme une véritable naissance. Ce qui aurait pu être traité, comme nous l'avons dit, uniquement comme un drame atroce, la perte d'une identité, la défiguration.
Surtout le visage,
voilà.
Parce que
oui,
c'est pas rien. Donc,
oui, parce que le visage est vraiment l'expression de l'être la plus profonde.
En partie de son identité, en tout cas pour
voilà.
nous.
Et donc, en fait, c'est en termes de renaissance que l'automne, l'hiver, le printemps et l'été vont pouvoir exprimer cette forme de renaissance. Mais tu parlais, Francis, des rêves qui sont très importants. Dans l'adaptation que fait Laure Werkman, il va y avoir justement une scansion dans le spectacle des récits de rêves. Parce que comme je le disais dans la première partie de l'émission, en fait le lien avec l'ours de Nastassia Martin existait justement sous la forme des rêves. Quand elle était chez les Évennes, elle rêvait de relations avec l'ours. Et chez les Évennes, le matin, quand on se lève, autour du brasero, la première chose qu'on fait, et c'est ce qu'elle fait avec Daria, cette espèce de mère d'adoption chez les Évennes, c'est se raconter les rêves, parce qu'ils vont indiquer des formes de relations avec le monde animal. Et c'est ce qu'elle va faire très souvent. Et donc, elle était marquée par l'ours.
Oui, pour ceux qui connaissent un tout petit peu les anthropologues du vivant, savent si, par exemple, vous avez lu Les Lances du Crépuscule de Descola, que le rêve est essentiel, parce que c'est le rêve qui indique la mise en relation entre l'humain et le non-humain. C'est à partir de là que se prennent les décisions concernant la pêche, concernant la chasse, et c'est à partir des rêves. Alors nous ne pensons pas ça, nous avons pendant longtemps cru que les rêves étaient prémonitoires, ensuite qu'ils nous parlent surtout du passé et de nos désirs, alors que là, il s'agit finalement d'un mode de vie, c'est-à-dire c'est les rêves qui définissent les signes et les traces qui vont se mettre en place dans notre existence.
Parce que dans les rêves, dans le monde animiste, c'est la façon de communiquer aussi des animaux d'âme à âme, même s'ils ont des formes différentes. Et par exemple, on voit Daria, lorsqu'elle veut pêcher le saumon, on la voit effectivement rêver, et elle dit que les saumons lui ont donné l'emplacement où elle pouvait aller les chercher, comme s'il y avait une sorte d'autorisation d'aller pêcher à tel ou tel endroit, et que les saumons acceptaient de mourir pour continuer à nourrir les évennes, par exemple.
C'est une manière, finalement, de se mettre en union et en relation avec le vivant dans son ensemble, puisqu'il ne s'agit pas de séparer d'un côté une culture particulière et de l'autre côté la nature. Il s'agit au contraire de montrer comment tout cela est lié, et la réparation n'est possible que dans ce fonctionnement-là. C'est-à-dire ce que Nastassia Martin appelle réparation et qui est racontée, parce que c'est une réparation qui est racontée, c'est précisément un lien nouveau à établir. Et ce sont les femmes qui l'établissent. C'est ce que Laure Werkman a d'une certaine façon mis en œuvre par le théâtre.
Oui, tout à fait. Et elle va d'ailleurs même sur son propre terrain, si j'ai bien compris le spectacle, elle va elle-même aussi s'interroger sur sa place, sur la place de la comédienne, mais aussi sur la place d'un chargé de relations publiques dans un théâtre, ou sur la place d'un régisseur, c'est-à-dire comme s'il était possible d'avoir une sorte de partage des rôles aussi, à l'intérieur aussi de son propre territoire, qui est le territoire de la scène, pour voir aussi comment raconter une histoire en faisant la place à différents postes sur le territoire du théâtre. Elle a aussi rajouté en prologue des extraits de conférences de Nastassia Martin.
C'est ça, pour présenter Nastassia Martin
comme
anthropologue.
Oui, comme si elle était là aussi, présente. Et après, elle va s'approprier les différentes paroles qui existe dans le récit de Croire aux fauves. Je crois que la lumière aussi aura une très grande importance dans le spectacle.
Tout cela se frotte, elle appelle ça des frottements.
Oui, et des hybridités.
Laure Werkman et des hybridations, puisque c'est au fond les deux thèmes qu'elle a repris du récit de Nastassia Martin. C'est d'une part le rêve, et puis d'autre part ce qu'elle appelle l'hybridation, c'est-à-dire comment des choses très différentes, comme l'animal ou l'humain, comme le public, ou
comme à l'intérieur du corps aussi, par exemple, la maladie nosocomiale, enfin, comment le corps aussi devient un endroit de frottement. Donc, c'est à différents endroits, il y a des porosités, des dedans et des dehors, mais qui communiquent. Et je pense que ça va être extrêmement intéressant. Alors, rien que la découverte déjà, je trouve, du texte Croire aux fauves et de Nastassia Martin, c'est formidable. Et en plus, la façon dont Laure Werkman va le mettre en scène et l'interpréter, c'est extraordinaire.
Et là, nous sommes complètement dans la suite de ce que nous venons, certains spectateurs, pas tous, ont pu voir avec Equinote et Tsuzamen.
Ensemble.
C'est un Tsuzamen, même si c'était un Tsuzamen vraiment violent. Alors, dans Equinote, il est tendre. Ici, il est violent. Eh bien, le théâtre vous met en relation avec le vivant. Ben, à bientôt, Christine. Et bon théâtre.
Vive le théâtre!